Voilà, des personnes dans les entretiens ont mentionné que par moments, elles étaient dans le doute, elles se demandaient dans le fond pourquoi elles sont là et à quoi ça sert. Et c'est une question qui me semble importante d'y revenir constamment, parce qu'autrement, on pourrait se perdre en route et puis, dans le fond, ça... S'accrocher à des objectifs qui sont les objectifs qui ne sont pas essentiels et qui ne sont pas la raison pour laquelle nous sommes vraiment ici. Donc revenir un petit peu à qu'est-ce qui fait l'essentiel de, qu'est-ce qui est l'orientation dans le fond de notre pratique. Et le Bouddha résume ceci d'une manière très simple. Ce qui l'intéresse, c'est la souffrance et la fin de la souffrance et la fin de la souffrance, évidemment de manière extrêmement brève, et non pas des questions sur l'origine. Un sutra très célèbre où un moine vient lui demander, lui dit est-ce que l'univers est éternel, ou est-ce qu'il est éphémère, est-ce qu'il est limité, ou est-ce qu'il est infini, est-ce que le Bouddha existera après sa mort ou pas, est-ce que la conscience et l'esprit sont la même chose? Et le Bouddha lui dit que ces questions, ça ne l'intéresse pas. Ça n'intéresse pas. La seule chose qui l'intéresse, c'est, et il le dit clairement dans le sutra, il le dit, c'est la souffrance et la fin de la souffrance ici et maintenant. Donc il faut bien écouter ce ici et maintenant. C'est pas dans des milliers de vies futures, c'est ici et maintenant. Donc le Bouddha résume la raison d'être de son enseignement, il enseignait pendant une quarantaine d'années, donc c'était la seule chose qui l'intéresse, sa seule préoccupation, c'est la souffrance et la fin de la souffrance, ici et maintenant. Donc, comme je disais, c'est important aussi d'entendre ici et maintenant, ça veut dire que c'est dans nos pratiques que ceci s'explore, et non pas parce que on accumulerait beaucoup de choses qui peut-être... une fois nous permettrait de découvrir ce que c'est que cette la fin de la souffrance ici et maintenant. Maintenant, évidemment, cette question de la condition humaine, on peut dire qu'elle a préoccupé toutes les religions et les philosophies, et tout arrive un peu au même constat, c'est que la condition humaine laisse à désirer. Elle n'est pas parfaite, il y a quelque chose qui manque, qui n'est pas juste. Donc ce constat-là, elles arrivent tous au même constat, religion, philosophie, mais après elles divergent. D'abord, pourquoi est-ce que nous en sommes là? Pourquoi est-ce que nous sommes dans cette situation? Là, il y a des divergences, et puis finalement, qu'est-ce qui est souhaitable? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, au lieu de ceci, par quoi remplacer cette situation humaine qui laisse à désirer. Donc si on regarde les raisons, c'est important de voir les raisons de cette situation, parce que c'est aussi ce qui nous donne des indications sur le chemin qui mène à la fin de la souffrance. Ça dépend le pourquoi nous sommes dans cette situation, les raisons, elles vont aussi indiquer comment s'en sortir. Alors, si on prend les grandes religions monothéistes, on arrive à une indication que nous sommes dans cette situation, nous sommes à cause de la chute hors du paradis. On est tombé hors du paradis, il y a une chute, cette chute elle est due à une désobéissance originelle, le péché, et donc l'être humain est coupable dans le fond. Même s'il est pardonné par la suite dans l'islam, mais il reste quand même cette espèce de faute originelle qu'est le péché, cette désobéissance, et qui fait que, dans le fond, l'être humain, il est condamné à ce châtiment. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, puisque, dans le fond, sa situation... n'est pas dû qu'à lui-même, la responsabilité de cette situation dans laquelle il se trouve, mais dans le fond, c'est l'action d'un Dieu qui a décidé finalement de bannir l'être humain du paradis, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, la solution, eh bien, elle se trouve en Dieu. C'est en Dieu qu'ils vont trouver la solution. Dans les prières, dans un pardon, etc. Même si les religions monothéistes ont trouvé des manières extrêmement riches d'aborder ceci et de revenir un petit peu à l'être humain. Il y a un travail extraordinairement profond chez les mystiques qui se fait. Mais au moins, le cadre, il est quand même là. Il est que l'être humain, eh ben, il est dans le fond dans cette situation. C'est un châtiment qui fait qu'il est dans cette situation-là. On va vous décrire le fait de comment Dieu chasse Adam et Ève hors du paradis, voilà. En leur montrant toutes les difficultés de la condition humaine. Donc là, on a vraiment l'impression que le pouvoir est à l'extérieur de l'être humain de s'en sortir. Et alors, évidemment, ça va donner dans le chemin spirituel des pratiques particulières qui seront de prière et autres, de dévotion, bon, des prières, des pratiques magnifiques. Mais ça montre quand même l'orientation de ces pratiques-là, puisque c'est dans le fond à Dieu qu'il faudra demander le fait d'intercéder pour ou d'aider pour que finalement l'humain ou cet humain ou ce mystique ou cette mystique puisse finalement sortir de cette situation pour, dans les traditions monothéistes, finalement de pouvoir se retrouver en Dieu avec toute la richesse évidemment des mystiques. Mais le pouvoir est à l'extérieur. Et ça, c'est un des points importants. Alors, dans l'Inde, c'est assez différent. Dans l'hindouisme, on pourrait parler des hindouismes au pluriel, parce qu'il y a beaucoup de différents systèmes. Eh bien, dans le fond, si je parle surtout de voilà, d'une des peut-être une des réflexions les plus profondes de l'Advaita Vedanta, ben dans le fond, cette situation insatisfaisante, elle est illusoire. Elle est due à l'illusion de l'être humain. C'est l'illusion de l'être humain qui fait qu'il est dans cette situation insatisfaisante. Et la seule réalité, c'est le Brahman. Il s'agit pour l'être humain, finalement, de réaliser qu'il n'est rien d'autre que cet absolu. C'est une erreur de perception. L'être humain perçoit mal le monde et c'est pour ceci qu'il perçoit cette situation comme insatisfaisante, comme situation qui manquerait à désirer. Et la situation ne manque pas à désirer, mais c'est la perception illusoire qui fait que pour l'être humain, eh bien, cette situation laisse à désirer. Dans la tradition bouddhique, on a aussi cette notion que l'origine, la source, c'est la confusion. C'est la confusion qui fait que la situation humaine est vue comme insatisfaisante. Mais la confusion ou l'erreur n'est pas vue comme chez les hindous, elle est vue de manière différente. Chez les hindous, c'est se prendre pour ce moi limité, ce petit moi, comme on appelle, limité, renfermé, alors que je suis le soi, avec un grand S, l'absolu, l'illimité, qui est pure joie éternelle, existence, conscience, béatitude. Donc, je me prends pour quelque chose de limité, c'est tout ce moi qui est mis en question, moi-je, qui est centré dans le fond et qui manque d'envergure, non pas d'ambition, d'envergure dans le sens où si je me libère de cette croyance en un moi limité, je réalise à ce moment-là que je ne suis rien d'autre que la totalité, à nouveau, pure joie éternelle, conscience et béatitude. Donc il n'y a rien d'autre que cet absolu, existence, conscience et béatitude, il n'y a rien d'autre qui existe que ceci. Et c'est l'illusion qui fait croire qu'il existe autre chose, notamment l'existence conditionnée avec ses difficultés. Tout ceci, c'est une illusion. Et pour les Shivaïs du Cachemire, un peu dans cette veine-là, pour eux, tout est Shiva, la seule réalité, c'est Shiva. Et finalement, ce monde imparfait, etc., ben, c'est le jeu de Shiva, c'est le jeu de l'esprit de Shiva. Il joue à ceci, donc nous sommes des éléments du jeu de Shiva, et si nous nous en rendons compte à ce moment-là, eh bien, nous sommes plus dans cette vie conditionnée, limitée. On réalise qu'on n'est rien d'autre que Shiva, donc c'est absolu aussi. Donc là, le bouddhisme s'approche de ceci dans le sens où c'est aussi la confusion qui est à l'origine. Mais pour la tradition bouddhique, si c'est la confusion, c'est pas la confusion qui fait que nous ne réalisons pas que nous sommes l'absolu, la totalité. Parce que pour le bouddhisme, il n'y a pas d'absolu, de permanent, d'ultime. Il n'y a rien qui soit absolu, permanent, d'ultime. Et ce qui est la marque extraordinaire du bouddhisme, quand je dis extraordinaire, ça veut dire qu'on ne retrouve pas dans les autres systèmes, c'est pas nécessairement la meilleure, mais c'est que pour le bouddhisme, le fait de ne pas reconnaître cet absolu permanent ultime, le bouddhisme considère l'existence humaine dans ce qu'elle est elle-même. Il ne va pas chercher quelque chose derrière. Toutes les autres traditions, les autres religions, veulent voir quelque chose derrière le monde des apparences. Il y a quelque chose d'ultime qui est derrière le monde des apparences. Ce monde des apparences où tout change, etc., c'est un monde qui n'a pas de valeur. Ça ne sert à rien, dans le fond. Autant l'éliminer. Pour les traditions monothéistes, y a que Dieu qui existe ultimement. Pour l'Advaita, c'est que le Brahman, ce qui est derrière ces illusions. Et pour le bouddhisme, l'attitude est à l'inverse. Pour le bouddhisme, eh bien, il n'y a rien derrière les apparences. Il n'y a pas d'absolu. Il n'y a que ces apparences, que ce changement. Donc le bouddhisme assume complètement cette impermanence du monde dans lequel nous nous trouvons. En n'essayant pas d'éviter cette prise de conscience, en mettant quelque chose d'autre, qui serait une sorte de refuge dans le fond. Oui, tout ça change d'instant en instant, mais il y a quand même, on laisse tomber ceci et puis on va voir l'ultime derrière. Une sorte d'endroit, de sorte de, dans le fond, de réconfort. Il y a un réconfort dans le fait qu'il y a un absolu, un ultime, le Brahman, le Dieu, etc. Et pour le Bouddha, cette manière, dans le fond, de répondre à la situation humaine est une réponse qui est un évitement. On évite d'assumer complètement la situation humaine dans ce qu'elle a de réel, de concret, dans son aspect changeant. Alors évidemment, il y a beaucoup de discussions entre les hindous et les bouddhistes, ils sont évidemment pas d'accord puisqu'ils ont des points de vue tellement opposés. Pour les hindous, évidemment, c'est rater l'absolu, c'est rester avec quelque chose de finalement qui n'a peu de valeur. Mais la philosophie occidentale aussi s'est basée là-dessus. Si on voit toutes les philosophies occidentales veulent voir un absolu derrière les apparences. Platon, dans son mythe de la caverne, ces prisonniers qui voient le fond de la caverne, qui voient les ombres de gens qui passent derrière eux. Ben, ces ombres-là, c'est le monde des apparences, de la perception. Et ça, c'est le monde illusoire, c'est un monde sans valeur. Puis dans le mythe de la caverne, un des prisonniers se retourne et il voit vraiment la réalité. Et cette réalité, c'est le monde des idées, c'est-à-dire les idées dans leur absolu, dans quelque chose qui ne change pas. Après, on va broder là-dessus, les philosophes pourront réinterpréter ceci, mais on est toujours dans ce sens que le monde éphémère qui change, il ne vaut pas la peine qu'on s'y attarde, puisque tout change d'instant en instant. C'est un monde qui n'a pas de valeur. Donc, si ce monde n'a pas de valeur, il faudrait qu'on trouve autre chose. Autre chose, donc un ultime qui ne changerait pas. Crois qu'on comprend bien la tentation d'un tel système. Maintenant, il faut dire, par la tentation d'un tel système, qu'il y a évidemment des expériences méditatives, mystiques, où on a l'impression que le mystique, la mystique, s'absorbe dans cet absolu, qui est aussi dans le cheminement spirituel, dans le chemin méditatif, une expérience qui peut surgir naturellement. Donc cet absolu n'est pas uniquement quelque chose d'imaginé, de complètement absurde. C'est aussi une expérience qui surgit lorsqu'on se désintéresse, complètement du monde des apparences, du monde éphémère. Et puis l'esprit peut rester dans le fond sur lui-même et faire cette expérience de ce qui paraît un absolu, ultime, inchangeant. Donc c'est une expérience méditative. Et pour le bouddhisme, il s'agit de ne pas s'arrêter là. Il s'agit de voir combien ceci, d'une certaine manière, est le fait de vouloir éliminer le monde des apparences pour s'absorber dans quelque chose qui est une sorte de retrait subtil, profond, qui a une sorte de retrait du monde. Se retire du monde dans ces sphères-là par une attitude méditative qui est simplement le fait de se désintéresser, de s'isoler de tout le monde des apparences. On trouve ceci évidemment dans l'Advaita, on trouve ceci chez Maître Eckhart aussi, de manière extrêmement parlante, où il parle des pauvres d'esprit. Il dit, qu'est-ce que c'est que la pauvreté d'esprit? Il dit, c'est ne rien avoir, ne rien vouloir, ne rien savoir. Rien avoir, rien vouloir, ne rien savoir. Donc il y a là une sorte de retrait du monde qui fait qu'on atteint cet absolu. Quand même, rendre justice à Maître Eckhart, il y a d'autres sermons où il parle justement de cette intégration du monde, où il dit que même si une personne avait toutes les pensées, toutes les perceptions qui ont existé dans cet univers, ça fait pas mal, mais si cette personne ne s'y attachait pas, elle serait aussi dépourvue de ses perceptions que s'il n'en avait pas. Donc là, il y a quand même une profondeur immense qui dit c'est pas le c'est pas le l'absence qui va permettre cette réalisation, c'est le fait de ne pas les saisir, qu'on a quelque chose là de d'assez profond. Mais pour le bouddhisme, il s'agit de se questionner sur ce monde des apparences et d'une certaine manière de l'assumer complètement. On dit l'assumer, c'est-à-dire le vivre d'instant en instant, sans l'évacuer par une sorte de discipline mentale, sans s'y attacher et sans le réduire à des interprétations, des représentations. Immédiatement, mettre des mots, des images qui seraient vouloir projeter sur les expériences quelque chose de stable, quelque chose qui ne change pas. On a parlé déjà beaucoup de ceci, la douleur, voilà, quelque chose, concept qui ne change pas, alors que l'expérience elle-même change d'instant en instant. L'assise, voilà, qui semble ne pas changer, j'ai peut avoir une image de ceci, alors que l'expérience elle-même est quelque chose qui change d'instant en instant. Maintenant, cette notion d'impermanence dans le bouddhisme, ce n'est pas quelque chose qui dure et qui se termine comme une tasse ou un verre qui dure la durée de avant qu'on la casse, si vous voulez, alors elle existe, puis de nouveau elle n'existe plus. Ça n'a rien à voir avec la durée qui cesse. C'est l'impermanence, ça veut dire qu'il change d'instant en instant. Il n'y a pas de position stable entre deux instants. Il n'y a pas de position stable entre un passé et un avenir. Les choses surgissent, disparaissent, surgissent et disparaissent. Donc il n'y a rien qui passe d'un moment à l'autre. Et ça, c'est un des aspects essentiels du bouddhisme, qu'il n'y a rien qui passe d'un instant à l'autre. Il n'y a pas d'absolu à chercher, et on se rend compte que la notion du moi, par exemple, eh bien, elle est là pour nous faire croire, nous attachant à quelque chose qui, au-delà des expériences, serait toujours la même chose. Il y a un moi qui, lui, voit, entend, etc., qui est stable, et toutes les expériences qui changent, les visions, etc., ça change, mais il y a un moi qui est stable, qui, lui, existe, qui, d'une certaine manière, est complètement illogique, c'est le même moi qui existait quand j'avais 5 ans, 10 ans, etc., qui serait toujours là, à aborder tous les problèmes que pose la notion d'un moi qui serait stable et permanent, parce qu'on a la peine à se connecter à tout ce qu'il y a d'éphémère. Donc là, le bouddhisme est complètement en porte-à-faux par rapport à toutes les traditions. Il y a un philosophe qui a remarqué ça, qui est Nietzsche, a dit, ben voilà, le bouddhisme est le seul qui ose assumer complètement un monde éphémère. Mais alors, on va se poser la question, au moins les autres systèmes, ben, il y a quand même quelque chose à souhaiter. Voilà. On va souhaiter d'être dans un absolu, être un avec le Brahman, être, voilà, existence, conscience et béatitude. Ça vaut le coup de pratiquer. Mais le bouddhisme, si c'est juste pour réaliser que tout change d'instant en instant, on n'a pas bien le bénéfice. Bon. On va peut-être changer d'école, de club. Mais je crois que l'exploration du Bouddha et du bouddhisme, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est justement là que se trouve la liberté, en assumant le côté éphémère et pas en le niant, ni en voulant placer quelque chose. C'est ça qu'est la liberté. La liberté, elle vient justement du fait d'assumer complètement cette impermanence, de ne pas vouloir placer quelque chose qui serait derrière, autre. Alors évidemment, ce monde éphémère où tout change d'instant en instant, ben on se rend compte quand on est dans la pratique, on voit qu'il y a rien d'est stable, il n'y a pas de place pour un moi stable et durable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Souvent, les gens disent, s'il n'y a pas de moi, il n'y a rien. Mais non, il n'y a pas rien. Il y a ce flot d'expérience, d'expérience. Les expériences, c'est conscience de quelque chose. Et qui sont éprouvées en totale liberté. Et dans le fond, c'est ce que nous mettons en place dans notre pratique méditative à chaque instant. Bien sûr, on rencontre nos tendances à vouloir mettre des concepts, des images, etc. On rencontre ceci. On a d'immenses habitudes, on a cette vision que nous partageons tous ensemble et avec le monde dans lequel nous vivons, qu'il y a des choses stables. Donc, on rencontre ces préjugés, ces croyances, c'est normal. Mais ce que nous mettons en place dans la pratique, c'est justement pouvoir explorer ceci. Donc, pour le bouddhisme, la solution est dans le problème. Elle n'est pas ailleurs que dans le problème. Elle est dans le problème. Ce qui veut aussi dire que dans notre pratique, chaque expérience, problème qui surgit, il présente aussi la solution. Que la solution n'est pas à chercher à l'extérieur. Et que souvent le problème, il est que on se tient à distance de l'expérience. Parce que justement, on essaie d'avoir une solution qui vient de l'extérieur. Dans un sutra un peu plus tardif, le Lankavatara Sutra, voilà ce qu'il est dit de manière assez frappante. Il est dit, le monde des apparences n'est pas réel et il n'y a pas d'autre monde. Le monde des apparences n'est pas réel et il n'y a pas d'autre monde. Quand il dit n'est pas réel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire que rien n'est saisissable, qu'on ne peut rien saisir par des concepts. Là, il y a une difficulté pour nous parce que dès qu'on place ce monde qui ne serait pas réel, ça veut dire le réel, c'est quelque chose qui appartient au monde des concepts, de la connaissance. Et là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit bien que le monde n'est pas saisissable. Si on veut le saisir en concept et autres, à ce moment-là, on le fige, on est dans la confusion. C'est dans le fond accepter de se fondre complètement dans la vie sans l'interpréter, sans la saisir par des concepts. La saisir par des concepts à toute fin utile quand on veut communiquer autre, mais si on veut découvrir sa nature profonde, ce qu'est cette liberté, à ce moment-là, il faut oser rester dans l'expérience qui change d'instant en instant sans vouloir la La saisir par des notions, ni ça existe, ni ça n'existe pas, ni c'est réel, ni c'est irréel. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'ouvre, quelque chose que le concept ferme, que l'interprétation ferme, et quelque chose qui, lorsque ce concept, ces interprétations cessent, quelque chose qui s'ouvre, qui est justement cette expérience de la liberté. Donc pour le bouddhisme, nous sommes libres parce que tout change d'instant en instant. Nous sommes rien d'autre que ce flux de changement. C'est quand on veut être autre chose, quand on veut être plus que ceci, qu'à ce moment-là, quand on veut être plus que ceci, à ce moment-là, l'existence humaine laisse à désirer. Dès qu'on se prend pour quelque chose, ça laisse à désirer, parce qu'évidemment, se prendre pour quelque chose, eh bien, c'est fragmentaire, il manque quelque chose. Se prend pour quelque chose, c'est une limitation qui fait qu'à ce moment-là, ça manque à désirer, ça manque tout ce que cette identification exclut, qui n'est pas fait dans l'expérience elle-même. Donc c'est revenir dans le fond avec la plus grande intimité à la vie elle-même, la vie avant qu'on y mette des concepts. Tout notre chemin méditatif, c'est ceci. Revenir à la vie elle-même dans son essence avant qu'on veuille l'interpréter. Et à ce moment-là, on découvre cette liberté qui fait partie de la vie, de la condition humaine, lorsqu'elle n'est pas saisie par la confusion. Cette manière de saisir confusément, finalement, c'est cette tendance à vouloir comprendre, c'est-à-dire à vouloir mettre en boîte, à vouloir mettre en concept. Parce que ce qu'on comprend, ce qu'on met en boîte, en concept, on peut le garder, on peut le transmettre, on peut le partager. Vous voyez, si on pas ce soir, mais si on voyait un beau coucher de soleil ou un beau lever de soleil, ben, l'expérience elle-même, on ne peut pas la partager, mais on peut décrire à une personne. La seule chose qu'on pourrait faire, c'est dire, viens, regarde, et la personne, elle fait l'expérience. Donc une expérience, on ne peut pas la partager, on ne peut pas la garder. Ce qu'on peut garder, c'est l'interprétation. Un peu comme si on prenait une photo avec nos téléphones, ça, on peut le garder. Mais l'expérience elle-même, elle n'est pas saisissable. Et nous avons une tendance à saisir par le concept, par l'interprétation, par le fait de nommer. Maintenant, quand je dis tendance à saisir, c'est pas une erreur, c'est pas qu'il faudrait éduquer les petits-enfants sans leur donner des concepts, des interprétations et des mots, ça serait la pire des absurdités. Le problème, c'est que pour des fins utiles, d'efficacité, nous apprenons à nommer, etc., pour communiquer, pour agir sur, et que finalement nous prenons ces interprétations, ce monde interprété, nous le prenons pour la réalité, et ce monde interprété, il laisse à désirer, puisque finalement c'est un monde abstrait, il lui manque la vie. Donc on a vraiment l'impression que là, il s'agit de revenir au plus intime de la vie. Donc la connaissance, c'est une manière de mettre en mots, de mettre en concept des expériences et aussi de les rapporter à du connu. Si on emploie un mot pour quelque chose, on rapporte toutes nos expériences à du connu, voilà, le coucher de soleil, etc., etc., ce qui veut dire que nos expériences filtrées par le concept, la représentation, c'est jamais que du réchauffé. C'est comme si on se souvenait, lorsqu'on est dans la vie, c'est comme si on se souvenait de la vie au lieu de la vivre. Donc on vit dans un souvenir. Alors que Si on ne se laisse pas enfermer dans ce monde des concepts, des représentations, la vie est neuve à chaque instant. C'est jamais du réchauffé. C'est toujours juste ceci qui surgit dans l'instant. Dans la définition d'une vraie connaissance, dans le bouddhisme, on dit ce qui est non illusoire est nouveau. C'est seulement à ce moment-là qu'il y a vraiment une perception de la réalité. Non illusoire, pour imaginer une situation de par les circonstances, en voyant par exemple, je ne sais pas, voilà, si on tournait une torche rapidement, on verrait un cercle, alors que c'est pas un cercle, c'est évidemment qu'une seule torche. Mais la condition, elle fait qu'on a l'impression de voir un cercle. Pour avoir différentes situations comme ça. Donc, la perception, ou bien un exemple qui est donné, c'est si on est sur un bateau et que finalement on est sur le bateau, on risque de voir la berge, c'est la berge qui défile comme ceci. Ça, c'est une erreur qui est due à la situation. Mais donc, une vraie perception de la réalité, elle est libre de ce type d'erreur. Et aussi, elle est fraîche, elle est nouvelle. Ça veut dire qu'elle n'est pas rapportée au passé. On a l'impression que toute la connaissance n'est jamais que revenir sur ce qui est connu, même s'il est évident que pour partager, on est dans ces conditions-là. Donc, la manière que nous avons, dans le fond, de représenter, de codifier, c'est une manière de tenir la vie à distance, parce que quand on veut connaître quelque chose, en général, on le met devant soi. Vous voyez, si on veut, c'est très simple, on a là, on voit les choses, on peut les mettre ensemble, etc. Donc on a tendance à mettre les choses devant soi pour pouvoir les organiser, les nommer. Bon, ça c'est des choses qu'on peut mettre ici, mais que ce soit les planètes, que ce soit les fleurs, les plantes, etc. On est à distance parce que l'interprétation, le concept tient à distance. Alors maintenant, dans nos expériences, on se rend compte que c'est exactement la difficulté que nous rencontrons dans nos méditations. C'est exactement cette mise à distance qui passe inaperçue la plupart du temps. Les émotions, c'est extraordinaire comme on a l'impression que les émotions, c'est quelque chose qu'on observe. Qu'on observe et on voudrait bien agir sur elles, les faire disparaître, s'en débarrasser. J'ai de la tristesse, j'ai de la colère. Et cette manière-là de percevoir l'émotion à distance est une manière de pas vraiment être avec l'émotion, c'est une manière d'être avec la représentation de l'émotion. Et à ce moment-là, c'est évident qu'elle ne peut pas être intégrée. On ne peut pas intégrer quelque chose, on ne peut pas intégrer dans le vécu le concept de l'émotion. Et ceci, dans tous les phénomènes qu'on considère, dès qu'ils sont représentés, ils sont mis à distance. Je parlais de l'émotion, mais tous les facteurs mentaux, on pourrait dire la somnolence. Est-ce que je peux vraiment voir la somnolence comme une manière d'être? Même le calme et la tranquillité comme des manières d'être et pas comme quelque chose que je pourrais garder. Donc dans notre méditation, il s'agit de revenir à cette intimité où finalement il n'y a plus de distance, il n'y a que l'expérience. Alors bon, pour les émotions, on peut se dire, ouais, d'accord, ça passe un peu à la rigueur. Mais c'est la même chose pour le corps. Ce qui est extraordinaire, c'est que le corps, on le perçoit à distance. On le perçoit comme un objet qu'on peut observer. On va faire l'inventaire de ce qui se passe. C'est pas un corps vécu. C'est un corps objet. C'est le corps, comme le corps des autres qu'on voit. Voilà, c'est le corps. Alors, voilà, je médite, alors il y a mon genou ici et là, il y a des sensations. Et une chose qui me frappe immensément, c'est que quand on pense qu'on peut observer des sensations, Observer des sensations, c'est complètement absurde. C'est absurde. Pourquoi? Parce que la sensation, c'est une expérience. La sensation est conscience de quelque chose. La sensation est conscience de... C'est une conscience qui est consciente de chaleur, de vibration, etc. Et c'est absurde de croire qu'on va prendre une autre conscience pour pouvoir prendre conscience de cette conscience-là. On n'en a qu'une de conscience. Donc la sensation est déjà conscience de quelque chose. La sensation est conscience de quelque chose. Donc la présence corporelle, quand on veut l'aborder comme un objet, c'est en général ce qui se passe. C'est très très rare qu'on puisse l'aborder subjectivement comme une manière d'être. De faire l'expérience du corps comme une manière d'être et non pas comme quelque chose que nous avons. À ce moment-là, une des caractéristiques des perceptions, des consciences sensorielles, l'audition, etc., c'est que ces consciences-là, elles ne créent pas des représentations, c'est le mental qui crée les représentations. Donc si on est dans la simple expérience sensorielle du corps, il n'y a pas de représentation. C'est pas qu'il n'y a rien, c'est qu'au contraire, il y a une pleine expérience du corps en tant que manière d'être. Donc on rencontre dans notre chemin méditatif constamment cette mise à distance qui fait que le processus manque de vie parce qu'on est dans ces abstractions plutôt que dans le vécu. Par moment, dans la pratique, on sent bien qu'on est dans le vécu lui-même et que c'est un autre niveau d'expérience. Qu'on est la méditation. On n'est pas en train de la faire, on est la méditation, on est ces expériences qui surgissent. C'est pour ça que la marche, c'est une exploration extraordinaire. Mais on va rencontrer évidemment cette tendance, si vous voulez, à s'observer marcher ou s'imaginer marcher. Et il n'est pas évident d'arriver à venir à cette expérience subjective du corps en mouvement, comme manière d'être, pas manière de faire. À ce moment-là, il y a, dans toutes ces expériences, quand il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de moi non plus. Le moi, il a besoin de cette représentation de quelque chose de stable. Donc, il n'y a pas besoin de partir en guerre contre le moi. Au contraire, on essaie de revenir dans l'intimité de la vie telle qu'elle se manifeste, et à ce moment-là, on va découvrir, pour en tirer des conséquences qui, contredisent un peu nos habitudes. Donc dans la question du sens, c'est bien, dans le fond, d'essayer d'assumer pleinement, totalement, sa manière d'être en vie, de la vivre pleinement. Avant tout système religieux, spirituel, c'est juste d'être là. Nouveau, manière d'être, pas manière de faire. Il y a dans le Sutta Nipata, donc c'est le sutra le plus ancien, une description, on trouve dans les sutras les plus anciennes, des descriptions de ceci très simples. Voilà ce que nous dit ce sutra. Il dit, laisse s'estomper ce qui appartient au passé, qu'il n'y ait rien après, et si vous ne saisissez rien au milieu, vous vivrez en paix, ça veut dire dans la libération. Laisse s'estomper le passé, n'attends rien après, et si vous ne saisissez rien au milieu, vous vivrez en paix, ça sera la libération. Donc c'est dans cet espace très subtil qui fait qu'on s'accroche pas au passé, on n'anticipe pas le futur, dans cet espace-là que se situe la liberté. Dans la mesure, on ne le saisit pas. J'ai cité à plusieurs reprises cette phrase de d'Hannah Arendt qui dit la fleur de la liberté pousse dans l'espace entre le passé et l'avenir. Fleur de la liberté pousse dans cet espace entre le passé et l'avenir. C'est exactement là que se situe la pratique de Vipassana, qui qui n'est pas compliqué, mais qui veut dire qu'en chemin, nous rencontrons nos habitudes. C'est normal. On va les rencontrer, on va s'y accrocher, et puis lentement, on va, bon, je prends l'exemple de la douleur. Là, la douleur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis tout d'un coup, je m'intéresse, et il y a ces sensations particulières, et puis, comme ma présence est un petit peu plus sensible, tout d'un coup, il y a juste ces sensations comme conscience de quelque chose. Ou dans l'audition, ou dans n'importe quelle expérience, ou la somnolence, ou la tristesse. Le problème pour nous, c'est si on croit qu'on va trouver la solution à l'extérieur, alors on veut se débarrasser. À ce moment-là, on entre dans un cercle qui est frustrant. Donc la solution est vraiment dans le problème. Dans la mesure où on aborde libre d'a priori, si vous voulez. Et dans cet espace, si vous voulez, entre passé et avenir, c'est pas qu'il se passe rien, il se passe tout. Enfin, il se passe l'audition, la vision, les vedanas, le fait que ça soit agréable ou désagréable, tout surgit dans cet espace-là. C'est pas tout d'un coup, il se passe rien du tout. Le texte dit si vous ne saisissez rien, au milieu, il dit pas s'il devait y avoir rien. S'il devait y avoir rien, on retomberait dans une sorte d'objectif de liberté absurde, parce qu'il faudrait qu'il se passe plus rien pour qu'on soit libre. Ça serait absurde, ça ne vaudrait pas la peine. Pourquoi, hein, éliminer la vie si on voulait vivre librement? Donc, dans cet espace-là, c'est toutes les expériences qui surgissent. Il n'y a rien à éliminer. Voilà donc, pour essayer assez brièvement d'ailleurs de remettre un peu l'essence de la pratique, c'est de vraiment être dans la vie, être en vie, être la vie pleinement. Et découvrir, lorsqu'on ne la tient pas à distance, quelle est liberté elle-même. Il n'y a pas à la trouver ailleurs. Il n'y a pas à trouver la liberté ailleurs que dans la vie elle-même, quand elle est pleinement vécue.